s'en va rejoindre au bout du fil une comédienne que vous aimez beaucoup, Mylène Saint-Sauveur. Comment vas-tu?
Allô, ça va bien toi-même?
Ben oui, ça va bien. Mylène, on va parler de belles causes, dont le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal qui a demandé à des artistes de faire des autoportraits et tu t'es prêtée à l'exercice.
Oui, exactement. Ça fait déjà là, quelques années qu'ils font ça. C'est la 7e édition. Puis moi, c'est la première année que je participe. Mais effectivement, il y a, je pense à la liste, là, plus d'une, je dirais même plus d'une cinquantaine d'artistes là, faciles qui ont décidé de se prêter au jeu. C'est confrontant, je te dirais.
Ouais, j'ai vu ton œuvre. C'est magnifique ce que tu as fait.
Ben merci beaucoup. Merci. Ça m'a quand même demandé une réflexion particulière. J'essayais d'intégrer quelque chose qui me rappelait, en tout cas du moins, le message que veut envoyer cette fondation-là, le DUCAP, qui aide beaucoup là, les gens qui ont de la difficulté au niveau de la santé mentale et tout oui. Ça. Donc, je suis partie de cette idée-là, puis de me dire, bon, comment moi, je ressens les choses quand je pense à la santé mentale. En étant comédienne, moi, je m'approprie le visage de plusieurs personnages, plusieurs réalités, hein, plusieurs vies. Donc, c'est un peu comme ça, là, mon œuvre, là, j'ai décidé, bien sûr, de me représenter, mais le visage est fait à partir d'un miroir brisé. Donc, quand la personne regarde la toile, c'est le reflet de son propre visage qui se colle au mien. Donc, je trouvais ça intéressant de présenter ce lien-là entre la personne qui regarde et l'auteur de la toile, le peintre. Voilà.
Est-ce qu'au départ, quand on est devant sa toile et qu'on doit faire un autoportrait, est-ce que c'est difficile de commencer, tout simplement?
Ah, c'est super difficile. J'avais plusieurs idées, puis avant que je prenne la toile finale sur laquelle j'ai fait l'œuvre, je me suis pratiquée sur une plus petite. J'ai fait des croquis. J'avais tellement peur de rater. Puis surtout, tu sais, on sait que ça va être vendu dans une encan. On veut que ça plaise aux gens. Puis il y avait aussi un désir tout à coup qui devait sortir juste de « Ah, je le fais chez moi pour le... Si c'est pas beau, c'est pas grave, je le mettrai au-dessus de ma douche ou de... dans ma salle de bain, personne ne va la voir, mais là, je savais que ça allait être présenté, puis on dirait que j'avais tellement goût qu'à plaise, puis c'est difficile parce que au final, ça reste moi-même, donc est-ce que c'est aussi une façon de se regarder, puis dire est-ce que c'est mon désir de devoir plaire à autant de gens, est-ce que... Bref, ça devient comme quasiment une question psychologique lorsque j'ai fait là, cette toile-là lors de en tout cas, de, je sais pas comment dire ça, mais de cette lors de ce processus-là de création. Même encore aujourd'hui, je doute. J'espère que cette toile-là va toucher. Mais une fois qu'elle a été faite, que j'ai déposé les pinceaux, je me suis dit, OK, ça, c'est ça que ça va donner. Puis j'arrête là. C'est le désir de perfection. Hein?
Oui, oui.
Pas évident.
Surtout quand c'est pour ramasser des sous. On veut que, non seulement on veut être content, nous, de l'avoir fait, mais on veut qu'il y ait quelqu'un qui l'achète au final.
Bien sûr, tu as tout à fait raison. On veut que ça plaise. Puis, on pense aussi aux couleurs qu'on utilise. Est-ce que ça va être beau dans le décor chez les gens? J'essaie d'utiliser, moi, beaucoup de couleurs chaudes, tu sais, d'avoir quelque chose, des fois, une toile qui nous fait sentir bien, qui nous trouble pas trop non plus. Oui, je pense que c'est important de se poser ces questions-là lorsqu'on fait une œuvre. Mais bon, moi, je suis pas une artiste. Peut-être que d'autres auraient un processus différent à raconter.
Avais-tu déjà fait ça? Aimes-tu la peinture? Est-ce que c'est un passe-temps que tu as ou c'était une première?
J'adore la peinture. Je peins à l'occasion, mais vraiment pour moi-même. C'est vraiment pas pour d'autres personnes. Ou je le fais des fois en cadeau pour niaiser. Là, je fais une petite toile pour rire avec avec la face d'un chat d'un ami ou tu sais des choses comme ça pour rigoler. Mais j'ai toujours apprécié le dessin, mais on dirait que je croyais pas, mettons, à cette capacité-là que j'avais de produire quelque chose de fini. Puis, un peu comme, je pense, n'importe quel artiste qui écrirait un livre ou écrirait une pièce. On a toujours l'impression qu'il y a encore quelque chose à rajouter, qu'on peut encore peaufiner. Puis je pense qu'avec la peinture, c'est ça qui est difficile. Moi, j'apprécie les peintres de l'expressionnisme allemand, par exemple, parce que c'est des peintres qui allaient avec les sentiments, qui vont avec le viscéral. Puis moi, j'arrive pas à faire ça. Tout est trop calculé, tout est trop... c'est trop mathématique pour moi. Fait que je trouve ça difficile d'aller à l'encontre de ça puis de me fier juste à mes sentiments. Puis je trouve que c'est un bel exercice de sortir de soi un peu puis de changer nos méthodes de travail.
Louise Forestier, qui est la porte-parole de l'événement, me disait que quand ils approchent les artistes, souvent, au départ, il y a de la peur de faire un autoportrait parce qu'il y a un côté confrontant, mais que lorsque les toiles sont acheminées au cap, une espèce de sentiment de fierté de l'avoir fait, as-tu cette impression-là, toi aussi?
Tout à fait, tout à fait. Quand j'ai remis ma toile de cette semaine, bien emballée, j'étais juste vraiment fière de l'avoir terminée, puis d'avoir rendu ce que j'avais en tête, puis juste ce sentiment-là d'accomplissement fait vraiment du bien. Puis je pense aussi que c'est ça la mission du CAP. Ça nous a fait vivre un peu en parallèle ce que eux font avec leurs membres, puis les gens qui vont chercher de l'aide là-bas. Ça nous a permis, nous aussi, en tant qu'artiste, je pense, d'arriver à développer le laisser-aller, le lâcher-prise. Oui, on s'est questionné tout au long du processus, mais une fois que c'est fait, on est tellement fiers de nous. Puis cette fierté-là, je pense, est importante. Puis je pense que c'est aussi ce qu'eux essaient de redonner aux gens qui le soutiennent là, par la Fondation.
Est-ce que l'intérêt pour l'art visuel a changé pour toi? Est-ce que maintenant, au lieu de peindre pour toi-même ou pour en blague avec tes amis, est-ce que ça a développé ton goût d'une autre façon, ta passion d'une autre façon?
Ben en fait, j'ai comme juste vraiment le goût de peindre maintenant, puis d'arrêter de me questionner puis de me demander si les autres vont aimer ça. Il faut juste s'asseoir puis le faire, un peu comme un auteur qui se demande toujours est-ce que mon livre va être lu ou est-ce qu'il va être vendu. Non, il faut juste t'asseoir à ton ordinateur pour commencer la première ligne. C'est juste ça, c'est sortir les couleurs, sortir les pinceaux, puis après ça, le reste vient. J'ai l'impression que c'est la routine qui manque. Souvent, je me disais que c'était comme une permission, tu sais, je me permettais de peindre seulement si j'avais terminé mes autres tâches. Ou c'est juste une récompense. Mais maintenant, j'ai envie que ça fasse partie de ma routine au quotidien. J'ai envie. C'est une belle méthode d'expression pour moi. Puis j'aime beaucoup la peinture. J'aime aller dans les musées. J'aime regarder des peintres. J'aime regarder des images, que ce soit sur Internet ou des catalogues de peintures anciennes ou même modernes. Puis je comprends pas pourquoi je n'intègre pas davantage à mon quotidien. Puis je pense qu'avec cet exercice-là que j'ai fait avec le CAP, ça a changé ma perspective par rapport à ça. Puis oui, j'ai envie maintenant de le faire davantage, puis pas d'amener ça comme une récompense, mais d'amener ça plus comme un processus de libération qui me permet au quotidien de peut-être diminuer même mon anxiété par rapport à la vie en général.
L'enquête aura lieu du 5 mai jusqu'au 18 mai sur macause.com. Vas-tu suivre, voir à quel le montant où tu es rendu?
Ah, c'est une très bonne question. Je sais pas si je devrais suivre à chaque jour. Je pense que oui, quand ça va commencer, je vais en faire la promotion, bien sûr, sur mes réseaux sociaux, mais je vais laisser aller un peu la vente de tout ça, mais je serais bien heureuse de regarder à la fin jusqu'où ça s'est rendu, en espérant juste que ça touche les gens puis qu'éventuellement quelqu'un puisse décrocher ma toile puis repartir avec à la maison.
Il y a aussi un autre item qui est à l'encan pour une autre fondation. Pour toi, tu as décidé de mettre à l'encan ta robe des Gémeaux?
Oui, exactement. C'est sorti cette semaine. En fait, pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir, il y a 40 artistes qui mettent des lots en vente. Et moi, j'ai décidé de donner la robe des Gémeaux dans laquelle je faisais le tapis rouge en 2018 pour ma première nomination aux Gémeaux pour Hubert et Fanny. Donc oui, c'est un beau souvenir pour moi. Ça a été une belle robe. Et maintenant, ben, j'espère que quelqu'un pourra en bénéficier puis faire à son tour tourner les têtes sur un tapis rouge quelconque quelque part.
Est-ce que c'est difficile de se départir d'un élément comme ça qui est rattaché à un souvenir marquant?
Oui et non.
Je même si on sait qu'on aide, évidemment.
Plus marquant, oui, plus marquant que d'autres. Il y a des costumes, par exemple, que j'ai gardés de certaines productions. Par exemple, des costumes de Anne Frank au théâtre, dans lesquels j'ai joué ma première pièce, mon premier film, lorsque j'avais 13 ans, aussi, Mademoiselle, j'ai gardé certains éléments de ça. Ça, je pense qu'il y a des affaires qui vont peut-être être plus majeures dans mes souvenirs. Les Gémeaux, oui, ça fait partie quand même des beaux souvenirs, mais ça reste quand même une soirée. Cette robe-là, elle a été portée qu'une seule fois, là. C'est un peu différent. Mais ce lot-là, ça me fait juste plaisir de le passer au prochain. Je pense que c'est une belle robe, c'était juste dommage qu'elle reste dans mes tiroirs, parce que de toute façon, c'était trop identifié, je pouvais pas la remettre nulle part, donc c'est parfait si quelqu'un d'autre va pouvoir en profiter maintenant.
Dans les dernières années, tu as tourné Nordique pour TV5, tu as voyagé beaucoup grâce à cette série-là. Est-ce que maintenant, avec tout ce qui se passe, on réalise le privilège qu'on a eu d'avoir tout fait ça?
Ben oui, tout à fait. Je pense que tu as bien raison là-dessus. C'est un énorme privilège. On sent dans des temps comme ceux-ci, présentement, le désir de sortir, de s'évader, de voir le monde. On se rend compte de la richesse des espaces, des rencontres humaines aussi avec les gens, hein, la proximité, de pouvoir se rencontrer, prendre un verre, manger une bonne bouffe quelque part, puis ben le voyagement, c'est sûr que on sent beaucoup qu'on risque de voyager au Québec cette année. Donc ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu mettre là, dans mon coffre de souvenirs toutes ces images-là de beauté un peu à travers le monde dans les derniers mois. Oui.
Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là de Nordique?
Je retiens que la nature est très fragile, mais très forte en même temps, que l'hiver est une saison à redécouvrir, qu'on peut parfois avoir un peu de difficulté avec cette saison-là quand on vit en ville avec le déneigement, les difficultés à se déplacer, mais que parfois cette saison-là peut tellement nous rappeler aussi que c'est des moments de festivité, de chaleur. Avec le froid vient la chaleur, hein, cette confrontation-là est très intéressante aussi. Puis c'est les rassemblements, c'est les fêtes, c'est une belle saison, je pense, à redécouvrir. Puis et effectivement, les temps changent, la nature change, la pollution est là, il faut faire attention, ça risque d'être une saison qui risque peut-être à certains endroits de disparaître, donc si on veut continuer à avoir de la belle neige blanche, il faut faire attention à notre environnement.
Évidemment, là, tout est arrêté, mais est-ce qu'il y a des projets pour toi à l'horizon? Est-ce que cette période-là, c'est une période de création, par exemple?
Oui, j'essaye. Je vais participer également à Télé-Québec, à l'émission Les Suppléants. Okay. Je vais pouvoir enseigner un peu de géographie aux jeunes secondaires, ce qui me fait vraiment plaisir, parler des forêts, parler justement de la beauté de l'environnement. Donc, ça me touche beaucoup et ça me tient à cœur. Sinon, mais moi, je suis chanteuse quand même. J'ai fait beaucoup de voix. Je me suis comme construit in extremis un petit studio à la maison là, pour pouvoir réussir à continuer de travailler malgré tout, donc ça me sauve pour l'instant, mais on va voir là qu'est-ce qui va se passer avec les tournages. On sait pas quand est-ce que ça reprend encore. Je sais que j'avais la chance d'être sur plusieurs séries qui continuent, là, entre autres L'Heure Bleue, Les Pays d'en haut, puis Alerte, donc ce sera à suivre dans les prochaines semaines.
Est-ce que déjà il y a un contact avec la production? Est-ce que les gens des productions des différentes séries t'ont parlé des possibilités ou pas encore?
C'est très difficile de prévoir ces choses-là pour l'instant, puisqu'il n'y a aucun calendrier qui est soumis.
Ouais. Et que la distanciation est difficile sur ces séries-là, j'imagine aussi.
Ben oui, en fait, ce qui est difficile aussi, c'est faut penser aux assurances. Il faut penser que nous, on tourne, par exemple, en fiction, beaucoup en location, c'est-à-dire chez des gens parfois, ouais, où on loue des dépanneurs, où on loue des hôpitaux, des écoles. Donc, si ces lieux-là sont confinés, ben pour nous, c'est pas possible d'aller tourner dans ces endroits-là. Puis ben, la distanciation sociale, de voir des personnages à 2 mètres, avoir des contacts dans vos séries préférées, ça serait un peu bizarre. Hein, donc, on ne pourrait pas non plus là, tourner peut-être avec des gens de 70 ans et plus. Bref, ça amène son lot de contraintes. Puis je pense qu'il va falloir qu'on revoie tout ça. Mais les producteurs sont là-dessus. Puis je pense qu'ils sont en train de développer là, des alternatives puis des solutions. Donc, ils nous gardent quand même informés, mais pour l'instant, il n'y a pas de calendrier fixe qui sont arrêtés.
Et le studio de voix à la maison, est-ce que c'était un souhait de longue date ou c'est arrivé quand, je pense, c'est l'Union qui a demandé qu'il y avait un studio à la maison pour des contrats de voix? Il y a plein de monde qui sont équipés tout d'un coup.
Oui, ben on n'a pas eu le choix. Hein. C'est bien sûr que, moi, par exemple, j'ai certains contrats d'annonceurs qui continuent un peu comme porte-parole, c'est-à-dire que c'est la voix associée à tel produit, donc j'ai pas le choix de continuer à fournir un certain service pour ces compagnies-là. Bien sûr, c'est un rêve parce que ça fait en sorte que la voix sonne vraiment mieux que si je le faisais sur mon téléphone. Mais oui, je pense en fait que là, il faut juste que je retrouve comment je vais faire pour placer ce qui était dans mon garde-robe ailleurs dans ma maison. J'aurais peut-être besoin encore de design VIP pour qu'ils viennent m'organiser ça chez nous.
Oui, parce que beaucoup de monde se sont fait un studio dans le garde-robe, finalement.
Ben,
c'est l'endroit le mieux insonorisé de la maison.
Okay, exactement. Le studio garde-robe est quand même l'endroit le plus isolé, le plus soundproof, si tu me permets l'anglicisme de la maison. Là, c'est vraiment l'endroit où ça sonne le mieux. Donc, pour l'instant, là, je pense que c'est la meilleure des solutions.
Il y a la pièce Vue du pont qui a été mise disponible en ligne pendant la crise. Est-ce que tu es allé voir?
Oui, certainement. Nous, on l'avait déjà aussi vue lorsqu'elle avait été présentée à Radio-Canada à l'époque. Mais oui, certainement, ça me fait plaisir de revoir cette pièce-là. Ça fait déjà quelques années. C'est bien de revoir les camarades sur scène. Puis, j'espère que ça aura touché les gens. On nous a dit au TNM, qu'ils ont reçu là, quelques messages à l'effet que ça brisait l'isolement de plusieurs personnes à la maison, puis ça leur faisait plaisir de voir un peu de culture. Donc, je suis contente de voir cette initiative-là du théâtre. Puis, j'encourage les autres à le faire également. Je trouve que ça fait du bien de voir du contenu québécois sur les plateformes.
Est-ce que ça t'appelle encore, le théâtre? Même s'il y a beaucoup de projets en télé, est-ce que le théâtre, ça t'attire toujours?
Ah, ben oui, certainement, certainement. On verra dans les prochains mois. Je sais qu'il y avait des annonces qui étaient supposées être faites à certains théâtres. Les lancements étaient supposés être faits là, au printemps.
Oui.
On verra comment.
Donc, il y avait une annonce pour toi?
Oui, peut-être.
OK.
Scoop! mais à voir, parce que là, bien sûr, je pense que les théâtres vont beaucoup se transformer puis changer. C'est donc. Mais oui, c'est sûr que le théâtre m'interpelle. J'aime pouvoir travailler avec des équipes d'une façon aussi comme un travail de longue haleine. Puis ça me fait plaisir de travailler un texte aussi, avoir plusieurs heures de répétition pour un même texte, de l'approfondir, puis de créer un personnage vraiment de A à Z. Ça me fait plaisir. Donc oui, j'aimerais ça pouvoir y retourner éventuellement.
Mylène, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Ben, merci à toi, ça me fait plaisir.
Merci.